Soyez les bienvenus, le journal Sébastien Legénie, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, quand la vie des migrants à Paris devient intenable, les associations qui leur viennent en aide seront en grève. Aujourd'hui, une première, une journée de pause pour dénoncer des campements inhumains. Reportage à suivre. Quand les fonds de pension regardent avec appétit les aéroports de Paris, retour de la loi sur la privatisation d'ADP aujourd'hui au Sénat. Explication du service économique. Dans l'actualité également, encore une dure journée pour Theresa May qui s'envole ce matin pour la France et l'Allemagne afin de demander un nouveau report du Brexit. Le Premier ministre hier au Grand Palais pour la synthèse du grand débat, grand oral aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Et puis on parlera aussi de la fonte des glaciers qui s'accentue et d'une nouvelle commentatrice sportive qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Elle n'a que 11 ans.
Le psychiatre Serge Tisseron, qui est membre de l'Académie des technologies, qui co-signe un nouvel appel à une vigilance raisonnée sur les technologies numériques, est l'invité d'Alexandra Ben Saïd dans 20 minutes à 7h50.
France Inter.
Ils vivent sous des ponts, près du périphérique, Sébastien, au milieu des déchets.
Oui, c'est ainsi que les hommes vivent, que vivent les migrants dans le nord de Paris, régulièrement évacués par la police. Ces campements se reforment sans cesse, une impasse qu'ont décidé de dénoncer avec force les associations. Aujourd'hui, pas de distribution de vêtements ou de duvets, pas d'aide médicale ou juridique, seules les distributions alimentaires seront maintenues. 17 associations d'aide aux migrants, dont le Secours catholique ou la Ligue des droits de l'homme, vont faire grève, une grève inédite afin d'interpeller l'État. Notre reporter Rémi Brancato s'est rendu sur place, porte de la chapelle, où la situation se dégrade de jour en jour.
Dans le camion de Médecins du Monde, tout près des tentes, sous le périphérique, Wazir, 22 ans, afghan, montre la plaie sur sa joue.
Aujourd'hui, elle est là pour faire un passement.
Et elle date de quand, la blessure? C'est la bagarre de samedi? C'est un coup de couteau?
Des bagarres ont éclaté ces dernières nuits dans les campements, un signe parmi d'autres, d'une dégradation de la situation pour Lise Lavillanière, le médecin.
On a de plus en plus de demandes psychiatriques, des gens qui viennent, qui s'effondrent. Il y en a certains avec des troubles mentaux qui sont dans la rue. Ils ne devraient pas être dans la rue. On sent que vraiment, ils n'en peuvent plus.
Trois fois par semaine, les migrants viennent trouver quelques soins. Cet endroit est trop sale, nous dit Mohamed, qui montre sa peau, des plaques purulentes sur le cou. Il y a des virus, j'ai besoin d'un endroit sain pour dormir. Et ici, ce n'est pas fait pour vivre. Les associations et les collectifs le répètent inlassablement. Et c'est le sens de cette grève aujourd'hui, cette pause symbolique pour Louis Barda, le coordinateur à Paris de Médecins du Monde.
C'est plus possible de continuer comme ça. Le collectif citoyen et les associations, clairement, ne devraient pas exister, en fait. Si l'État faisait son travail, toute personne qui cherche à demander l'asile ou qui a besoin d'un hébergement d'urgence devrait l'avoir.
Les associations demandent désormais un rendez-vous avec le Premier ministre. Selon elles, plus de 1000 personnes dorment toujours dans des tentes au nord de Paris.
Le reportage de Rémi Brancato, retrouvé en images sur franceinter.fr. Le Premier ministre Édouard Philippe qui se rendra cet après-midi devant les députés après le Grand Palais, le Palais Bourbon. Il doit y présenter les résultats des 3 mois de consultation sur le grand débat. Même exercice demain devant le Sénat.
Le Sénat, qui examine aujourd'hui la privatisation controversée des aéroports de Paris.
Les sénateurs sont vent debout contre la vente de ce bijou de famille. En première lecture, ils avaient retoqué cet article de la loi Pacte, qui revient donc aujourd'hui en deuxième lecture. Pas question notamment pour l'opposition que Vinci fasse main basse sur les aéroports après avoir avalé les autoroutes. Un Vinci bashing, un dénigrement de Vinci, comme on dit en français, qui commence à attiser les appétits d'autres investisseurs potentiels, des fonds d'investissement venus du monde entier et qui n'ont souvent aucune connaissance du métier. Laurent Kramer.
Leurs ressources et capacités financières apparaissent comme sans limite. La banque d'investissement australienne Macquarie et le fonds d'investissement australien IFM détiennent à eux deux 470 milliards de dollars d'actifs. Engloutir ADP, payer une prime de contrôle pour y exercer la gouvernance, ne leur pose donc aucune difficulté. Plus surprenant encore, le fonds américain ITC est lui aussi sur les rangs. Ce fonds activiste, connu pour sa recherche de bénéfices à court terme et son absence revendiquée de stratégie industrielle, détient lui aussi des ressources sans limite. Le gouvernement assure que tout est prévu pour qu'aucun fonds activiste n'entre au capital d'ADP. Difficulté pour eux, tous ces fonds agitent des sommes pharaoniques, mais ne disposent en réalité d'aucune expertise aéroportuaire. Une alliance industrielle leur serait donc nécessaire pour acheter et gouverner détenait ADP. La France doit-elle vendre l'intégralité de ses parts à un groupe comme Eiffage ou Vinci, ou risquer de voir débarquer ce type d'investisseur au capital d'ADP? Le gouvernement n'a toujours pas tranché.
Laurent Kramer, et puis il n'y a pas qu'ADP qui intéresse les capitaux étrangers. L'entreprise Guy de Graine, spécialiste normand des arts de la table, en grave difficulté financière, Guy de Graine a conclu un accord avec un groupe allemand qui s'apprête à prendre 30% du capital. Direction la Libye maintenant, où le spectre d'une guerre civile refait surface depuis quelques jours. Le général Haftar, l'homme fort de l'est du pays, refuse de mettre fin à son offensive, comme le lui demande la communauté internationale. Son armée dit avoir bombardé hier l'aéroport de Tripoli. Les vols ont été immédiatement suspendus. Hier, Emmanuel Macron a téléphoné à son rival, le chef du gouvernement d'Union nationale libyen, reconnu par l'ONU. La France, qui est depuis le retour des violences dans une situation très délicate en Libye, soutient d'un côté officiel du gouvernement de Tripoli, mais en même temps très proche du général Haftar. Les explications de Bertrand Galichet.
Un embarras diplomatique perceptible qui conduit la France à démentir officieusement tout plan secret destiné à mettre au pouvoir en Libye le maréchal Haftar, car depuis le début de l'offensive menée par l'homme fort de la Cyrénaïque jeudi dernier, les regards se tournent vers Paris, soupçonnés de double jeu dans le dossier libyen. D'un côté, la reconnaissance par la France du gouvernement al-Sarraj à Tripoli comme seul pouvoir légitime, et les efforts pour tenter de le réconcilier avec son adversaire Khalifa Haftar. Deux réunions ont été organisées, au château de la Selle-Saint-Cloud en juillet 2017, puis à l'Élysée en mai 2018, dans l'espoir de parvenir à des élections, sans résultat jusqu'à présent. Et parallèlement, la France, sur le plan militaire, entretient des relations étroites avec le maréchal Haftar, qui a bénéficié de matériel français et du soutien d'agents de la DGSE. Pour justifier cette double politique, Paris invoque un nécessaire partenariat en matière de lutte contre l'immigration clandestine et contre le terrorisme, et assure qu'aucune légitimité ne sera reconnue au maréchal Haftar s'il prenait le contrôle de Tripoli.
En bref, encore à l'étranger, nouvelles tensions et beaucoup de confusion. Ce matin, au Soudan, secoué par des manifestations depuis 4 mois, des tirs ont été entendus lors d'une manifestation dans le centre de Khartoum, près de la résidence du président Omar el-Béchir. Cela fait 3 nuits que les opposants au président campent devant le ministère de la Défense. Des dizaines d'orques et de belugas capturés et entassés dans des bassins dans l'extrême-orient russe. L'image avait fait le tour du monde il y a quelques semaines. Une pétition pour leur libération avait rassemblé 1,5 million de personnes. Et bien sous la pression, les autorités russes ont finalement promis hier de les libérer dans la nature. Quelques mots de sport avec la Fédération française de rugby qui n'envisage pas de faire appel après avoir été condamnée hier par les prud'hommes à payer 1 million d'euros à Guy Noves, l'ancien sélectionneur du 15 de France, avait été limogé avant la fin de son contrat. Et puis le célèbre commentateur sportif de France Télévisions, Patrick Montel, lui était convoqué hier par sa direction pour avoir tenu des propos qui ont mis le feu aux réseaux sociaux et au monde de l'athlétisme. Patrick Montel qui s'est interrogé pour savoir d'où venait le dopage et concluant que tout le monde avait en fait intérêt à ce que l'athlète se dope. Bien moins polémique, cette nouvelle voie justement du commentaire sportif sur les réseaux sociaux. Roman a seulement 10 ans, cette petite fille de CM2 vient de créer NBA by Roman, un podcast qui parle de la NBA, la Ligue américaine de basket. 2 petites semaines plus tard, eh bien c'est un carton, plus de 30 000 écoutes. Et Tony Parker en personne la félicite dans un tweet. Elle a raconté cette jolie histoire à Benjamin Boucriche.
Quand on clique sur le premier épisode, impossible de ne pas avoir un petit sourire attendri.
Bonjour à tous et bienvenue sur NBA by Roman. C'est une émission hebdomadaire qu'on va retrouver tous les dimanches, parce que moi je peux pas faire autrement.
En publiant cette émission, Roman avait pour objectif 50 écoutes. 2 semaines plus tard, plus de 30 000 personnes ont tendu l'oreille.
Il faut déjà les imaginer, les 30 000 personnes. C'est ça qui est compliqué. Et je suis super contente.
La légende vivante du basket, Tony Parker, l'a même félicité.
Je savais plus quoi dire en fait, c'est trop bien.
Pour arriver là, chaque soir, Roman suit les derniers résultats du basket et prend des notes.
Et maintenant le match de la semaine. Les Bucks sont allés à Philadelphie, au Wells Fargo Center. Il y a eu l'opposition Giannis Antetokounmpo et Joel Embiid qui sont à peu près tous les deux sur des stats 27 points, 13 rebonds.
Ensuite, le dimanche matin, c'est l'heure de l'enregistrement dans la chambre des parents, un moment très attendu.
Je parle de ma passion, donc ça me fait forcément plaisir.
C'est son papa, Mehdi, qui publie ensuite l'émission sur Internet, puis s'occupe des nombreux messages reçus sur les réseaux sociaux.
On fait une prélecture, on s'assure que tout soit clean, et puis on regarde avec Roman le soir pour un peu découvrir tous les petits messages de la journée et qui sont tous sympas hein, pour le moment de toute façon.
Prochain épisode, ce dimanche.
Voilà, on
la
termine.
Relève.
Exactement, on termine avec l'actualité ciné. L'affiche cette semaine, Les Oiseaux de Passage, co-réalisé par Christina Gallego et Ciro Guerra, un film colombien sur la drogue. Mais on est bien loin des films sur les grands trafics. Il s'agit là des origines du trafic de drogue, car comme en toute chose, Eva Bétan, il a bien fallu un début.
Il y a eu un avant, une Colombie d'avant le trafic de drogue. Ce n'est pas si vieux, les années 60-70, des années qui ont vu prospérer dans l'autre Amérique, celle du Nord, des jeunes gens chevelus qui ne se contentaient pas du tabac. C'est donc l'histoire d'un paradis perdu en raison d'un mécanisme vieux comme le commerce. Il y a une demande pour un nouveau produit, la marijuana, car cela a commencé par la marijuana, un produit infiniment plus rentable que les céréales traditionnelles. Christina Gallego.
Nous voulions raconter l'arrivée du capitalisme sauvage dans un pays rural. Il y avait du trafic de cigarettes, de café. Et puis des gens d'Amérique du Nord sont arrivés. Ils voulaient de la marijuana. Alors on s'est mis à en cultiver. Innocemment, on est entré dans ce trafic qui a détruit les cultures et l'économie de notre pays.
Avec la drogue, tout va vite. L'enrichissement comme la professionnalisation, on passe du transport à dos d'âne à l'avion. L'explosion des valeurs aussi. La singularité de ce film est d'ancrer son histoire dans une communauté rurale. Les Wayuu à l'identité très forte. L'arrivée du mal dans cette société fermée prend l'aspect d'une tragédie.
Les Oiseaux de Passage, ça sort demain sur les écrans et c'est un film inter.
Merci Sébastien Legénie. Deuxième point route, Adèle Bossard.
Point route avec le château fort de Castelnau en Dordogne, musée de la guerre au Moyen-Âge. La visite en famille dont on se souvient toute sa vie. Animation sur castelnau.com.
Et un accident, Adèle, à l'est de Paris.
Sur l'autoroute A4 à hauteur de Saint-Maurice, direction de Paris, 2 des 5 voies de circulation sont fermées et il vous faut près d'une heure pour faire une dizaine de kilomètres. Circulation difficile aussi en Haute-Loire. Il y a eu une collision entre un poids lourd et 2 voitures sur la nationale 88 au sud d'Issingeaux et les 2 voies de circulation sont concernées. Et puis un poids lourd accidenté sur la rocade sud de Rennes en intérieur. Là, ça génère des ralentissements à hauteur de la porte de Bréquigny.